Bonsoir. Clôture vendredi dernier à Bruxelles du conclave de l'opposition. Les participants exigent l'organisation de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels et la libération des prisonniers politiques. Ils acceptent le principe du dialogue, mais pas tel qu'est convoqué par le président Kabila. En réaction, la majorité présidentielle qualifie ces résolutions de coups d'État constitutionnels. Quelle analyse faire des résolutions de ces conclaves? Nous en parlons avec Olivier Kamitatou, il est député national et président du parti politique ARC, parti de l'opposition. Il est aussi vice-président chargé des relations extérieures de la plateforme G7. Bonsoir, honorable Olivier Kamitatou.
Bonsoir.
André-Alain Atundu, il est porte-parole de la majorité présidentielle. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur André-Alain Atundu.
Bonsoir.
Et Étienne Vivien Kalonji, politologue et analyste indépendant, il est aussi expert en résolution pacifique des conflits. Bonsoir, monsieur Étienne Vivien Kalonji. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Un cadre permanent de concertation des forces politiques et sociales dénommé Rassemblement pour le respect des valeurs républicaines a été mis en place à l'issue de la conférence de Genval qui s'est clôturée le 10 juin dernier dans les petites heures. Ce rassemblement est placé sous le leadership du président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. D'après le communiqué final sanctionnant les travaux, un document final appelé Engagement de Genval a été adopté à l'unanimité par toutes les délégations et chaque participant y a apposé sa signature. Les opposants se sont également mis d'accord sur la mise en place d'un panel qui devra prendre contact avec le pouvoir, l'opposition et la société civile afin de débattre des questions relatives à l'organisation des élections. Le résumé de ce communiqué final avec Jacques-Yves Moulima.
D'après ce communiqué, la mise en place de ce mécanisme de suivi répond au besoin de matérialiser les engagements solennels pris lors de la conférence. En effet, d'après l'ordre du jour spécifié en 4 points, le communiqué suggère que les participants ont passé au peigne fin, entre autres, le contexte politique actuel, le processus électoral et la mise en œuvre de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les participants ont exprimé leur vive préoccupation du fait de l'installation d'un climat délétère caractérisé par les tensions diverses, l'insécurité généralisée dans le pays. Aussi, sur les incertitudes profondes qui planent encore sur l'organisation du troisième cycle électoral ainsi que le rétrécissement de l'espace de liberté fondamentale. Face à la situation, les participants ont convenu de mettre en commun leurs forces et énergies en vue de faire échec à toute velléité de renversement de l'ordre constitutionnel. Quant à ce qui concerne la mise en œuvre de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les participants appellent à sa mise en œuvre intégrale sous la modération du facilitateur international, renforcé par un panel de représentants des Nations Unies, de l'Union Européenne, de l'Union Africaine, de l'OIF ainsi que des États-Unis d'Amérique. Ce panel devra le plus rapidement possible prendre contact avec toutes les parties prenantes et attendre les uns et les autres sur le voie et moyen d'organiser les élections apaisées dans le délai constitutionnel.
Merci Jacques-Yves Moulima. La majorité au pouvoir rejette toutes les résolutions adoptées par le conclave de Bruxelles. Dans une déclaration à la presse vendredi dernier, le secrétaire général de la MP estime que ces résolutions sont constitutives d'une tentative de coup d'État. Obeng Inako souligne que sa famille politique tient absolument au respect de l'ordre constitutionnel installé de façon démocratique. Au dire d'Obeng Inako, la majorité présidentielle dénonce et fustige de ces faits toute approche insurrectionnelle tendant au renversement des institutions démocratiques élues. Obeng Inako explique au micro de Jacques-Yves Moulima.
Il faut prendre cet acte d'engagement dans son ensemble. L'esprit et la lettre de cet acte d'engagement. La République démocratique du Congo est régie par une constitution. La République est en train de s'organiser pour les prochaines élections. Tout le monde sait que la CENI est en pleine opération préparatoire à l'enrôlement. Et donc tous nous sommes inscrits dans un schéma électoral, un schéma démocratique. La majorité présidentielle est tellement bien informée, nous savons que la plupart cherchent à ce qu'il y ait un président de transition, une constitution de transition, une transition avec partage de pouvoir. Cela constitue une violation à l'esprit d'un état de droit assis sur une constitution. Voilà pourquoi pour nous, tout celui qui cherche à contourner les élections est dans un schéma de coup d'État, parce que la République est régie par une constitution.
Olivier Kamitatou, je rappelle que vous êtes député national et président du parti politique ARC, parti de l'opposition. Vous êtes aussi vice-président chargé des relations extérieures de la plateforme G7. Quelles sont les motivations de la tenue de ces conclaves et pourquoi ça s'est tenu à Bruxelles et pas à Kinshasa?
Voilà, la première motivation, c'est bien entendu que l'ensemble des forces politiques et sociales qui sont acquises au changement, elles ont comme point commun, elles l'ont déclaré solennellement, c'est le rattachement indéfectible à la constitution de la République démocratique du Congo et à son strict respect. Malheureusement, nous avons déploré tous les blocages, tous les freins qui sont mis effectivement à l'application des dispositions de la constitution qui visent à l'organisation d'une élection dans le délai constitutionnel, l'élection présidentielle dans le délai fixé par cette constitution. Et à partir de là, nous avons considéré qu'il était important de faire un appel à l'unité de l'opposition parce que nous avons pris conscience de la volonté du peuple congolais de nous voir ensemble défendre le bien le plus précieux du peuple congolais aujourd'hui, qu'il a adopté à 85%, c'est la constitution qui dispose que le principe d'alternance y est inscrit parce que c'est la condition de la paix et de la stabilité dans notre pays.
Alors, pourquoi à Bruxelles et pourquoi pas à Kinshasa?
Parce que vous savez très bien que les conditions de travail à Kinshasa, la restriction de l'espace politique en interne, n'offre plus la possibilité pour les forces de l'opposition de tenir une réunion sereine sur le sol national. Et le gouvernement en a, c'est vrai que vous allez dire, aujourd'hui, pourquoi ne pas se réunir à Kinshasa, mais nous exigeons la libération des prisonniers politiques, la fin et l'abandon des poursuites contre les opposants. La libération de l'espace politique est importante, l'ouverture des médias est importante, ils ont été fermés, les médias privés, le libre accès aux médias publics. Vous savez que la répression existe à Kinshasa et que l'opposition dans son unité, nous avons voulu un lieu où nous pouvons travailler en toute sérénité. Et là, par rapport à la propagande du gouvernement, le gouvernement n'a aucune leçon à donner à l'opposition, puisque lui-même a engagé des pourparlers avec l'opposition dans le cadre de son dialogue à lui, à Venise, à Ibiza, à Monaco. Nous avons nous décidé de nous trouver un lieu où nous pouvons sereinement discuter. Ce lieu a été Bruxelles.
Honorable Kamitatou, parmi les résolutions, vous exigez la tenue de la présidentielle avant le 19 décembre 2016. Entre-temps, vous évoquez un certain nombre de préalables, parmi lesquels l'examen de la question de l'organisation du fonctionnement de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Et vous savez qu'il ne nous reste plus que 6 mois pour qu'on arrive au mois de décembre. Et vous êtes convaincu qu'en 6 mois, vous réussirez non seulement à examiner la question de la CENI et de la Cour constitutionnelle, qui sont des questions fondamentales, mais aussi à mettre en place des mécanismes pouvant permettre la tenue de la présidentielle. Vous ne pensez pas que là, vous êtes vous-même en train de vous piéger au travers de ces préalables?
Si vous avez bien lu le document, et vous l'avez lu, nous n'avons pas demandé de revoir la composition de la CENI ou de la Cour constitutionnelle. On a demandé simplement l'examen, un état des lieux, comment ça fonctionne. Parce que nous savons que ces deux institutions sont instrumentalisées par le pouvoir. Ce que nous voulons, c'est un climat apaisé. Il appartient au pouvoir de favoriser l'apaisement par la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques et d'opinion, la libération des activistes des droits de l'homme, les jeunes gens de Lucha, de Filimbi, la libération des journalistes qui sont emprisonnés, le retour au pays de tous les exilés politiques, la libéralisation de l'espace politique, ça ce sont des points essentiels. Nous ne voulons pas, absolument pas, perdre une seconde. Nous savons que le calendrier est extrêmement serré, et nous prenons date à partir d'aujourd'hui. pour que le 19 septembre, la CENI eh bien, puisse convoquer, comme l'article de la Constitution l'oblige, le corps électoral, pour que demain, nous n'ayons pas à retomber à nouveau dans le débat de l'illégitimité, parce que rien ne pourra sauver Joseph Kabila de l'illégitimité dans laquelle il s'enfoncera après le 19 décembre si les élections n'ont pas été organisées avant cela.
Honorable Kamitatou, vous êtes convenu que si au 19 décembre, vous venez de le dire, 2016, il n'y a pas d'élection présidentielle, le président Joseph Kabila quitte le pouvoir, mais vous ne dites pas comment cela va se passer concrètement. C'est lui-même, le président Kabila, qui va constater qu'il n'y a pas eu d'élection. Il fait ses valises et il s'en va, ou c'est vous qui allez le pousser à partir? Concrètement, qu'est-ce qui va se passer au 19 décembre à minuit?
Eh bien, je crois qu'il faut d'abord parler concrètement ce qui va se passer demain, le 30 juin, le 1er juillet. Ce que nous voulons, c'est qu'avant le 19 décembre, qui est une date fatidique, eh bien, que le pouvoir prenne ses responsabilités et que nous puissions mettre en œuvre tous les mécanismes pour que la CENI, le 19 septembre, puisse convoquer le corps électoral. Donc, n'allons pas trop vite en besogne. Beaucoup de travail doit être effectué. Nous souhaitons l'apaisement par l'application, la mise en œuvre intégrale de la résolution 2277 avec l'appui et la mobilisation populaire, avec l'appui de la communauté internationale, avec la bonne volonté de toutes les parties prenantes. Nous pouvons réussir ce pari. Il y va de l'avenir de notre pays. N'allons pas chercher aujourd'hui à savoir ce qui se passera le 19 décembre. Cherchons maintenant à savoir ce que tout le monde doit faire pour que nous puissions échapper au pire, au chaos qui s'annonce si les élections ne sont pas organisées.
Et quelles sont les actions que vous comptez entreprendre, n'est-ce pas, pour pousser la CENI à se pencher sur le processus électoral afin que, d'ici décembre, les élections soient organisées?
Bien, écoutez, la première chose, nous sommes tout à fait disposés aujourd'hui à participer activement à toutes les initiatives qui seront prises pour la mise en œuvre intégrale de la résolution 2277. Ça veut dire que si nous devons ensemble discuter du fichier électoral, la manière d'avancer très vite, du financement des élections, de la séquence et du calendrier électoral, nous sommes tout à fait disposés, mais toujours dans l'esprit et la lettre de la résolution du Conseil de sécurité 2277 adoptée le 30 mars dernier.
Merci.
Ça, c'est une énorme avancée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis Genval, le rapport des forces politiques pour nous a changé. L'unité de l'opposition s'est exprimée. Nous avons harmonisé nos points de vue sur la résolution 2277, le respect de la Constitution, le rejet de toute forme de référendum. Nous avons considéré... Allô?
Oui, honorable.
Nous avons considéré que le 19 décembre, si les élections n'ont pas eu lieu, nous ne reconnaîtrons pas un pouvoir illégitime. Nous allons travailler pour nous engager aux côtés du peuple au respect de la Constitution, tous ensemble, en parlant d'une seule et même voix.
Merci André Alain Tondou, porte-parole de la majorité présidentielle. La majorité présidentielle, par la bouche de son secrétaire général, estime que les résolutions issues de ces conclaves sont constitutives d'une tentative de coup d'État. Pourquoi?
En effet, au regard des objectifs et de l'objet réel de cette rencontre, c'est renverser la première institution du pays en violation des dispositions constitutionnelles en vigueur. Toucher à la voûte de l'architecture constitutionnelle pour énerver toute la Constitution. Deuxièmement, la procédure. La procédure, elle est conforme à une sédition. D'abord, vanter un prétexte fallacieux et factice, à savoir que le pouvoir ne veut pas organiser, ne donne pas les moyens, alors qu'il doit savoir que même la CENI l'a reconnu, depuis quelques mois, le pouvoir libère à temps ce qu'il faut pour avoir les moyens d'avoir un fichier. Deuxièmement, prendre la résolution d'agir et d'intervenir en violation des dispositions constitutionnelles, vous venez de l'entendre. Si le 19, rien ne se passe, nous allons prendre des dispositions, etc. Est-ce que la Constitution n'a rien prévu? Troisièmement, évaluer les forces actionnées et surtout le soutien extérieur. Et là, la visite auprès du ministre belge a un éclairage particulier. Serait-ce pour aller chercher le soutien. Enfin, la finalité de cette opération, qu'il faut bien appeler ainsi, c'est la suspension, sinon la suppression de la démocratie en désignant en lieu et place d'un président démocratiquement élu et mis en place, un président imposé par la volonté d'une minorité radicalisée, un peu obnubilée, par les frustrations et peut-être le désir de vengeance.
Abdul Makassi de Kisangani dit ceci: dans quel pays au monde le fait d'exiger le respect de la Constitution et l'avènement de l'alternance démocratique constitue une tentative de coup d'État constitutionnel?
Je vous ai expliqué. L'alternance, et quoi encore, les élections, c'est une voie communément partagée par tous les Congolais. Mais à l'étape d'aujourd'hui, Il ne s'agit pas de faire une profession de foi naïve. Il s'agit de se mettre à l'œuvre pour savoir quels sont les problèmes qui se posent, comment se posent-elles, qu'est-ce qu'il faut pour amenuiser dans la mesure du possible le délai que la CENI estime à 17 mois. Donc il ne s'agit pas ici de pratiquer la politique d'Hérode, c'est pas moi, c'est lui. Non, il s'agit de prendre ses responsabilités et, comme le dit ici à Kinshasa, de prendre le taureau par les cornes.
Le secrétaire général de la majorité présidentielle a affirmé que tout celui qui cherche à contourner les élections est dans un schéma plutôt des coups d'État. Et là, il fait allusion à quoi et à qui, parce que le conclave ne s'est pas opposé aux élections. Au contraire, lorsque vous lisez ses résolutions, son acte d'engagement, il fait plutôt de la tenue de ces élections son schéma de bataille.
Vous venez d'entendre l'honorable Kamitatou qui privilégie absolument une voie non constitutionnelle pour remplacer la désignation par élection par une désignation autoritaire d'un président de la République. Eh bien, les déclarations du secrétaire général de la majorité présidentielle s'appuie sur les dispositions pertinentes de la Constitution, l'article 64, qui dispose que aucun individu, aucun groupe ne peut prétendre prendre le pouvoir par la force ou le conserver par la force. Dans cette hypothèse, eh bien, celui qui a la charge de garantir la bonne application de la Constitution devra se référer à cet article pour s'opposer légitimement.
Et l'opposition ne pourra pas se référer à ces mêmes articles demain quand il n'y a pas élection.
Sur quelle base
annoncer que
s'il n'y a pas élection, que prévoit la Constitution? On a posé la question à la Cour constitutionnelle. Eh bien, si à la date où normalement le mandat constitutionnel du chef de l'État en fonction se termine, aucun autre président nouvellement élu n'est désigné, n'est connu, eh bien, le président en fonction reste jusque à l'élection et à l'installation effective du nouveau président élu. Alors, je voudrais pas faire ici la part belle aux émotions de cœur. Parce que, en réalité, ce qui est au cœur de leur tourmente dans le respect de la Constitution, c'est leur haine tenace contre l'individu Kabila avec une volonté à peine voilée de vengeance. Alors ça, ce n'est pas républicain, ce n'est pas démocratique. Soyons hommes d'État, soyons hommes politiques.
Alors, dans les différentes déclarations des cadres de la majorité présidentielle, on a dénoncé une main noire derrière l'initiative de l'opposition. Vous soupçonnez quelques puissances ou certains intérêts d'être à la base de cette réunion. Vous avez évoqué le premier ministre belge. Est-ce que c'est lui qui serait à la base de cette réunion?
Vous savez, la démocratie, ce n'est pas seulement une profession de foi. Ce sont aussi des apparitions de manifestations. Eh bien, puisque dès le départ, il prétendent que le secrétaire général qui doit organiser le dialogue. Eh bien, la logique eût voulu qu'à la fin de ce travaux, ils aillent chez le secrétaire général, ou au moins chez le président Kabila, qui l'a convoqué pour lui dire « Voilà, nous ne sommes pas d'accord. Dites-moi, quel est le rôle reconnu au ministre des Affaires étrangères de la Belgique dans le processus électoral, dans la structure de notre démocratie, pour être ainsi le premier à avoir le rapport, bien avant même les militants et la population.
La Belgique, c'est le pays hôte.
Mais la Belgique, c'est le pays hôte. Mais c'est une organisation privée. J'ai entendu que la majorité s'est réunie à Ibiza, etc. Oui, dans un cadre privé. Et à la fin de travaux, nous avons vite fait de revenir au pays pour présenter au président Kabila le rapport. Mais nous ne nous sommes pas présentés auprès du président italien, auprès, du ministre belge, auprès du roi d'Espagne, pour dire, voilà, nous nous sommes réunis chez vous, voilà. Et en plus, remercier pour le soutien. Mais c'est une organisation privée.
Merci.
Est-ce une ONG?
Merci Étienne Vivien Kalonji, politologue et analyste indépendant. Vous êtes aussi expert en résolution pacifique des conflits. Comment analysez-vous cette initiative de l'opposition qui s'est réunie dans un conclave à Bruxelles?
Oui, merci beaucoup mon frère Guy Maté. J'en profite aussi pour saluer tous les auditeurs de la radio CAPI et notamment aussi mes co-débatteurs de ce soir, l'ambassadeur André Alain Tundou et l'honorable Olivier Kamitatou. Nous estimons que les opposants viennent de franchir un pas important à partir de leur regroupement, mais ils viennent de le faire en retard. Ils doivent cependant s'atteler le plus vite possible sur la maîtrise de la stratégie de la résistance active non violente qui pourra leur permettre de constituer un véritable poids politique dans le jeu des rapports de force qui les oppose au pouvoir. Car l'espace politique est un monde magique, monde aléatoire et monde des imprévus. Il est constitué d'un champ politique qui est régulé par le jeu des rapports de force. Et au stade actuel, vous venez de suivre l'argumentaire de l'ambassadeur André Alain Tundou, qui du reste n'est pas d'accord pour cette union-là de l'opposition et cette rencontre-là à l'étranger. Et il va même plus loin dans ses propos pour signifier que c'est en quelque sorte une haine à un individu, alors que lorsque nous arrivons à analyser les faits qui sont têtus, ce qui se passe au pays, c'est que le processus électoral est émaillé de beaucoup de problèmes. Il y a l'opposition qui réclame à ce que l'élection présidentielle se tienne dans le respect du délai constitutionnel. Il y a le pouvoir ici représenté autour de ce débat par la majorité présidentielle qui, pour eux, développe un discours lié au manque de moyens de l'organisation de cette élection-là, techniquement, alors que, quelque part, c'est un processus qui a été déjà enclenché depuis l'élection de 2011. Comme on se le dit dans le droit, que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, le processus électoral devait être la priorité des priorités dans le conscience de tout opérateur politique congolais. Parce que nous sommes déjà liés par un contrat social avec nos mandataires, qui du reste ne sont pas éternels aux affaires, mais ils doivent toujours, dès l'entrée aux affaires, comprendre évidemment que nous sommes appelés aussi à rendre compte à la fin de notre mandat, pour ainsi permettre l'essor de notre démocratie.
Étienne Vivien Kalonji.
Oui,
comment vous comprenez l'idée de l'opposition quand elle dit que s'il n'y a pas d'élection présidentielle d'ici le 19 décembre, le président Kabila devra quitter le pouvoir?
Oui, c'est constitutionnellement prévu pour l'opposition, le président de la République, et à son dernier mandat, et que le délai qui lui est imputé dans la Constitution, c'est celui de céder l'éponge à cette date.
Oui, mais...
L'opposition... Oui.
Oui, vous ne pensez pas que... Monsieur Vivien Kalonji, vous ne pensez pas que le fait de le dire tout simplement ne suffit pas, il faut aller au-delà, n'est-ce pas? Il faut dire concrètement comment les choses vont se passer, parce que s'il faut se baser sur cette constitution, vous venez de suivre l'ambassadeur André Alain Tondou, il s'est aussi basé sur la constitution pour expliquer que au 19 décembre, s'il n'y a pas élection, rien ne va se passer, le chef de l'État sera toujours là.
Certainement, c'est ce que nous fustigeons auprès de notre classe politique, surtout à l'endroit de l'opposition. Il suffit pas de dire que le 19 décembre tout va s'arrêter et que le chef de l'État va rendre le tablier. Mais ici, il suffit aussi d'entrevoir, comme j'étais en train de le dire, une stratégie de résistance à l'activisme non violent. Parce que j'ai pu retenir auprès dans leur déclaration finale, dans un des points de leur résolution, ils réaffirmaient leur entendement commun sur le combat pacifique. Ils ont choisi pour l'obtention de leurs attentes, notamment la tenue des élections, de l'élection présidentielle, dans le respect de l'obligation constitutionnelle. Mais il ne suffit pas d'attendre cette date-là. Moi, je pense que les opposants au Congo ne font que le même jeu. Hein, ils font des déclarations, c'est limité à la radio, au micro de la radio pour faire des déclarations. Ici, il suffit d'entrevoir toute une stratégie de résistance d'une manière pédagogique pour enclencher réellement quelques actions démocratiques en respect de la loi qui pourra leur permettre certainement d'associer leurs attentes avec la pièce partie qui est l'opinion publique. Parce que l'opinion publique, si elle est épousée leurs attentes, à ce moment-là, ils peuvent enclencher des actions dans la rue, comme je l'ai toujours répété, que la rue constitue un terrain de prédilection pour tous les groupes d'intérêt qui veulent nécessairement jouir de leurs droits, qui veulent nécessairement sortir d'une sorte d'injustice. Mais ici, il faut aussi savoir comment maîtriser cette rue. Il suffit pas de dire que le 19 décembre, tout va s'arrêter et nous allons enclencher des actions et que lesquelles actions vous n'avez pas préparées, vous n'avez pas conçu une organisation sérieuse pour enclencher des actions dynamiques et événementielles. Il ne faut pas s'attendre aux actions sporadiques et spontanées, parce qu'il faut s'asseoir sur la spontanéité des masses qui répondent à vos appels afin d'enclencher cela dans un dynamisme événementiel.
Et
c'est là
bien...
où les positions politiques au Congo pêchent.
Et bien quand
il faut entrevoir des détails de pédagogie des formations.
Et j'ai posé la même question à M. Kamitatou. L'opposition exige la tenue de la présidentielle avant le 19 décembre prochain, tout en évoquant un certain nombre de préalables tels que l'examen de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on ne risque pas de passer tout le temps en train de voir comment réaliser ces préalables? Entre-temps, on aura dépassé les délais constitutionnels.
Non, ce sont des surenchères politiques. Il faut ici voir toutes les préoccupations, toutes les attentes de l'opposition comme étant de la surenchère autour de leur rencontre quand ils seront dans le format du dialogue. C'est de la surenchère, parce qu'effectivement, il faut se réaliser que lorsque une des parties n'est pas d'accord avec le fonctionnement d'une institution, comme la CENI qui doit être indépendante et qui doit être une institution d'appui à la démocratie, et que dès lors que la démocratie est ici assujettie au respect de la Constitution, cette démocratie-là ne trouve pas son bon essor, la CENI devait se démarquer, devait ici appliquer des actes qui devaient faire voir à l'opinion publique que la CENI est indépendante. Voilà pourquoi ils sont en train de réclamer à ceux qui doivent réellement revoir le bon fonctionnement de la CENI. Mais c'est de la surenchère pourquoi? C'est de la surenchère parce que eux, en disant cela, ils s'attendent à ce que ces préoccupations-là doivent être prises en compte par leurs partenaires de la majorité. Parce que si tous nous devons aller dans le jeu électoral, il faut que les choses soient claires.
Merci.
Comme l'eau dans un verre. Oui. C'est de
Merci.
Cette manière qu'ils réclament. Et il faut aussi tenir compte que quand ils disent cela, c'est dans le cadre des moyens de pression qui sont en train d'exiger auprès du pouvoir.
Merci Vivien Kalonji. Honorable Olivier Kamitatou, il y a une question qui vous adresse, elle vient de Mandaka.
Kevin Ikoka depuis Mandaka. Moi je pense que l'opposition veut qu'il y ait effusion des sangs dans le pays, car nous sommes devant un fait accompli qui fait que le délai constitutionnel ne soit plus respecté. Actuellement, respecter les délais devient synonyme des élections non crédibles et profitables au pouvoir en place. L'essentiel, c'est d'avoir des bonnes élections au lieu de se contenter du délai intenable. Qu'est-ce que l'opposition attend faire en cas de non-respect de délai? Si c'est la force, ce serait toujours violer la Constitution. Les bonnes élections restent le gage d'une passation pacifique du pouvoir en RDC.
Oui, honorable Olivier Kamitatou, vous avez compris, on revient sur le même aspect. Vous ne dites pas concrètement qu'est-ce que vous comptez faire, n'est-ce pas, à l'opposition, si d'ici le 19 décembre, il n'y a pas d'élection présidentielle.
Il y a plusieurs. Vous savez, il ne faut pas induire nos auditeurs en erreur. Nous ne demandons pas à revoir fondamentalement la CENI, la Cour constitutionnelle. On ne peut pas aujourd'hui fixer de tels préalables et à Genève, dans la déclaration d'engagement, nous n'avons pas fixé ça comme étant un préalable. Deuxièmement, quand on parle de coup d'État, c'est-à-dire vouloir accuser aujourd'hui l'opposition de fomenter un coup d'État relève de la pure imagination, de la fantaisie. Ce n'est pas le mode opératoire, ce n'est pas l'option de l'opposition. Cette accusation de la majorité, en fait, procède de l'abnégation de la différence et de l'abnégation du débat pour justifier la répression contre les mouvements pacifiques et contre l'opposition démocratique. En réalité, un pouvoir qui, en fin de mandat, veut revoir les règles du jeu, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est ça qui s'appelle un coup d'État constitutionnel. Dans le cas d'un président qui a juré de respecter la Constitution et qui ne la respecte pas, ça s'appelle un parjure. Et l'opinion jugera. De toute façon, personne n'est dupe du mandat sans limite donné par la Cour constitutionnelle à Joseph Kabila. Et de toute façon, rien ne pourra le sauver, comme je le rappelle, de l'illégitimité. En ce qui concerne les actions, eh bien, soyez sûrs qu'après, que les forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo se soient unies dans un appel, eh bien, que nous ayons répondu à la volonté du peuple congolais, nous allons maintenant nous engager de manière pacifique à la mobilisation générale du pays pour avoir des élections, pour que l'élection présidentielle ait lieu dans les délais fixés par la Constitution. L'opposition tient à l'organisation d'élections présidentielles comme une possibilité en combinant astucieusement plusieurs articles de la Constitution. On peut convoquer le corps électoral le 19 septembre. On peut également lancer l'enrôlement des jeunes majeurs. Ce n'est pas un recensement des jeunes majeurs que nous voulons. C'est simplement qu'on ait un délai de temps pour que ceux qui n'ont pas de carte d'électeur puissent aller chercher leur carte d'électeur pour que l'élection qui est la plus facile à réaliser, l'élection présidentielle, dans une circonscription unique, avec peu de candidats, eh bien, nous puissions continuer à enrôler et fixer les dates précises de cette période d'enrôlement.
Merci, honorable.
L'élection est le 19 décembre prochain.
Merci, honorable. Monsieur l'ambassadeur André Alantoundi, il y a une question qui vient de Kinshasa qui vous a adressé.
John Kamangou, à partir de la ville-province de Kinshasa. Les conclusions du conclave ne contrarient en rien l'esprit de la Constitution. Cependant, les qualifier du coup d'État serait une manière de se voiler la face pour la majorité présidentielle, car vu leurs différentes stratégies entretenues jusque-là, notamment la loi électorale avortée de janvier 2015, les déchéances des membres de la CENI, l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur l'article 70 et le référendum envisagé, il y a lieu de conclure avec certitude que c'est la majorité présidentielle qui est en passe de réaliser un coup d'État. Pire encore, ce monsieur Minaku, président de l'Assemblée nationale, autorité budgétaire du pays, qui fait cette déclaration alors que son institution n'a pas su faire son travail quant au suivi du financement de la CENI, au moment où des dépenses extra-budgétaires ont été engagées mais non justifiées.
Oui, monsieur l'ambassadeur André Alantoundou.
Nous le savons. La responsabilité de la situation que nous vivons est partagée, on l'a dit, on doit le redire. Lorsque le premier calendrier global a été annoncé, qui a refusé? C'est l'opposition. Calendrier partiel, a refusé. Et maintenant, nous en sommes, la CENI en est arrivée à la conclusion, qu'il faut une option consensuelle sur cela, pour qu'ils puissent proposer un calendrier acceptable par tous. Voilà pourquoi le secrétaire général a rejeté au nom de la majorité présidentielle la totalité de ses recommandations ou résolutions. C'est pour mettre nos populations à l'abri d'une erreur fatale en démocratie. Nous devons mobiliser l'opinion, le peuple, la population contre le paradoxe des arrière-pensées démocratiques illusoires distillées par des esprits malins cachés sous le manteau d'opposants et de démocrates et qui procèdent en réalité d'une erreur d'essence partagée par l'intelligence. Au point, nous venons de le voir, de promouvoir l'anarchie comme la meilleure expression de la démocratie. Non, monsieur, nous sommes dans un état de droit et tout est prévu, bien prévu.
Monsieur Vivien Kalonji, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Lubumbashi.
Maxime Kabila, j'appelle de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. À mon avis, le microcosme politique congolais s'évérue davantage car les deux camps, c'est-à-dire la majorité et l'opposition, ne mettent pas sur les mêmes ondes pour délivrer le pays du chaos qu'elle aurait doute de part et d'autre. Vous comprendrez que si le conclaviste de Bruxelles rejette le dialogue dans les formats convoqués par les chefs de l'État, la majorité présidentielle, elle aussi, de son côté, rejette en bloc toutes les conclusions qui sont sorties de cette messe, les qualifiant d'un coup d'État constitutionnel. Eu égard à toutes ces tractations politiques observées dans les deux camps, il y a lieu de conclure que le chaos est inévitable dans ce pays. Car là où il y a division, la domination du diable est permanente. Prions pour la RDC.
Étienne Vivien Kalonji.
Oui, la préoccupation de notre compatriote Wong Son Pesandor, parce qu'il craint le chaos. Effectivement, ce chaos-là, nous ne devons pas le craindre. Nous devons prendre le problème du Congo à bras le corps, savoir comment s'y prendre et comment aussi entrevoir des solutions. En fait, je suis tout à fait inquiet de voir que dans le chef de la majorité, il se développe un discours tout à fait flou, qui ne permet pas ici de comprendre qu'est-ce que nous voulons et que, où allons-nous. Le processus étant déjà enclenché depuis 2011, la constitution définissant aussi la durée du mandat, moi je pense qu'à notre avis, à cet instant ici, la majorité devait déjà développer un discours tenant lieu de la tenue des élections, même si les moyens n'existaient pas, mais nous devons sentir dans le chef de la majorité qu'il y a au moins le dauphin de l'actuel président qui est sortant. Nous ne voyons pas la majorité s'empresser sur un candidat quelconque qui va prendre le relais s'ils veulent réellement, en tout esprit démocratique, conserver le pouvoir parce que c'est de leur droit. Normalement, s'ils sont aussi respectueux de la Constitution, ils devaient déjà, c'est ça d'ici, comme l'ambassadeur est là, c'est un homme éminemment qualifié, pour aussi prendre le relais de se présenter au nom de la majorité pour être le dauphin du chef de l'État. Mais ici, nous entendons toujours le développement d'un discours qui cache quelque chose. Il n'arrive pas à démontrer effectivement que nous avons le bon sens et la volonté d'aller vers les élections et d'accepter l'alternance. S'il faut qu'il y ait l'alternance, s'il faut qu'il y ait la personne du chef de l'État qui est déjà à son second et dernier mandat, puisse s'écarter, mais au sein de la majorité, s'il y a quelqu'un qui peut prendre cela. Nous voyons sous d'autres cieux les primaires s'organiser. Cela doit nous donner des leçons pour l'essor de notre démocratie. Il faut que les gens apprennent à comprendre que nous arrivons au pouvoir et nous devons aussi en sortir la tête haute. Et de là aussi, je parle en ce qui concerne les opposants. Il ne suffit pas ici tout simplement d'entrevoir des actions lorsque nous arriverons au non-respect de la Constitution. Ici, il faut se réaliser que il faut développer une attitude comportementale sérieuse pour obtenir ce que l'on veut. Et en politique, il n'existe pas de cadeaux. Si les opposants continuent de penser qu'il est question d'appeler la population une fois dans la rue, sans préparation réelle et responsable dans le cadre de la résistance non violente, et il se limite à dire que des actions pacifiques, encore faut-il savoir que le vocable pacifique ici est source de ce que nous appelons, nous, dans la question de la non-violence, comme étant, n'est-ce pas, un vocal de ceux qui ont la capacité de se résigner facilement. Le pouvoir dispose de l'impérium au travers de la force légale dont il bénéficie les prérogatives et l'opposition doit jouir du soutien de l'opinion publique qui doit mobiliser, encadrer, associer à son combat de résistance.
Merci.
Et c'est une pédagogie d'apprentissage. Il ne faut pas ici se limiter à annoncer les dates
et savoir que vous allez appeler les gens et descendre et qu'on va les réprimer.
Merci,
et
ces gens-là vont se résigner
et vous pensez avoir fait quelque chose, vous allez nous amener. Et là...
Merci Didier, Étienne Didier, vient Kalonji. Honorable Olivier Kamitatou, que répondez-vous à Monsieur Étienne Vivien Kalonji qui vient d'évoquer les flous entretenus par la majorité présidentielle au sujet des élections? On n'arrive toujours pas, alors qu'on approche vers les élections, on n'arrive toujours pas, n'est-ce pas, à dire quand est-ce que ces élections vont se tenir, qui est le dauphin du président Kabila? Et aussi au sujet des flous que vous, à l'opposition, vous entretenez, au sujet des actions que vous comptez plutôt entreprendre d'ici là, afin que ces élections puissent se tenir dans les délais constitutionnels.
Eh bien, écoutez, pour l'opposition, il n'y a pas de flou. Nous allons mobiliser et nous n'allons pas attendre la fin du mandat du président de la République le 19 décembre pour engager des actions. Les actions vont être engagées très rapidement. Un calendrier est à l'étude, les actions seront annoncées très rapidement. La paix dans notre pays, elle repose sur une prémisse fondamentale, centrale, c'est le respect de l'alternance, la limitation des mandats, les contre-pouvoirs. Aucun Congolais ne souhaite qu'on retourne aujourd'hui dans la Deuxième République. Qui ne se rappelle dans les années 90 au cours duquel le pays, notre pays, a tant souffert parce que Mobutu ne voulait pas quitter le pouvoir. Le pays était l'otage d'un homme qui ne voulait pas accepter que son destin personnel était passé. Eh bien, aujourd'hui, quand on voit comment notre pays a été détruit, comment le peuple a souffert de l'égoïsme d'un seul homme à cette époque-là, nous devrions tous être les remparts du peuple afin que cela ne se reproduise pas.
On aura
pas la haine. Nous n'avons pas de haine.
Honorable Kamitatou.
Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est l'alternance le 19 décembre prochain.
Voilà, nous nous rendons compte que on est toujours dans l'impasse. À votre avis, que faut-il pour sortir de cette impasse? Ça sera aussi votre conclusion.
Eh bien, pour sortir de l'impasse, il faut que nous nous mettions à la mise en œuvre intégrale de la résolution 2277. Dans un esprit de construction pour que très rapidement toutes les étapes qui conduisent à un scrutin crédible, l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels sont possibles. Ces conditions, nous devons tout mettre en œuvre pour les rassembler. Et je crois que si nous sommes dans cet esprit, nous pourrons sauver le pays du chaos annoncé.
Merci.
Dans lequel, malheureusement, par égoïsme, certains voudraient nous plonger.
Merci.
Donc je suis confiant, l'opposition dans son unité est disposée à travailler à l'application intégrale de cette résolution, parce que c'est par cette voie que nous pouvons sauver notre pays.
Merci, honorable Olivier Kamitatou. Monsieur l'ambassadeur Anikaya Leantundu, que faut-il pour sortir de l'impasse? Ça sera sur votre conclusion. Vous venez de suivre l'honorable Kamitatou, qui pense qu'il faut la mise en œuvre, n'est-ce pas, de la résolution 2277.
Il faut rejoindre le dialogue qui est soutenu, qui est reconnu comme légitime de la part de ceux qui ont signé cette résolution de la part des quatre grandes commissions. Personne n'a parlé d'un autre mandat pour Kabila. Le problème aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qui va se passer si les élections ne se tiennent pas? Il est pathétique d'entendre que la voie choisie par l'honorable Kamitatou, lorsqu'on sait que c'est lui qui a présidé l'Assemblée, qui a mis cette disposition-là. Il vient de faire la démonstration par l'absurde.
Merci.
Que M. Kabila est bien le garant de la Constitution et
Merci.
Il le fait bien.
Étienne Vivien Kalonji, votre conclusion?
Oui, la conclusion est que les opérateurs politiques doivent se retrouver dans le dialogue, dans le format de la résolution 2277. C'est un format qui ici rencontre les ententes de tous les participants. Et l'opposition aussi doit comprendre qu'ils doivent toujours tenir compte de leur poids politique dans le champ.
Merci, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Alain Goy qui était à la technique. Et merci à toute l'équipe Dialogue entre Congolais. Alain Rung, Berry Franklin Luchaka sous la supervision de Pelle Kipela Mondo. À la présentation Guy Matré. Merci à ce mardi pour un autre débat. Et bonne suite de programme sur Radio-Canada.